France Culture.
Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La mort au collège à Nogent en Haute-Marne. Une surveillante a été tuée à coups de couteau par un élève qui a été arrêté. L'adolescent n'était pas connu des services de police. Nous ferons le point sur l'enquête avec Jeanne Stémar. Et nous verrons avec Antoine Marette les réactions politiques particulièrement virulentes à l'extrême droite. En Autriche, une tuerie dans un établissement scolaire a fait 9 morts à Graz. L'agresseur serait un ancien élève de l'établissement qui s'est suicidé après le massacre. Les explications à suivre d'Isorias. 5000 militaires à Los Angeles. Donald Trump a décidé de militariser la répression contre les adversaires de sa politique migratoire. Face à lui, le gouverneur démocrate de la Californie, Gavin Newsom, nouvelle figure de l'opposition au président américain. Le dossier de ce journal nous emmènera à Rochefort, en Charente-Maritime, pour la réouverture de la maison de l'écrivain voyageur Pierre Loti. Un déferlement de violence insensé pour Emmanuel Macron. Une assistante d'éducation est morte ce matin sur son lieu de travail, le collège Françoise Dolto de Nogent en Haute-Marne. Mélanie, 31 ans, a été attaquée au couteau par un élève de l'établissement. La surveillante a succombé à ses blessures devant son collège. L'élève, âgé de 14 ans, a été arrêté. L'agression a eu lieu pendant une opération de contrôle des sacs de classe en présence de gendarmes. Jeanne Stémar, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, s'est rendue sur place au collège Françoise Dolto de Nogent et elle a donné des précisions concernant le profil de l'élève mis en cause, Jeanne.
Selon la description qu'en fait la ministre de l'Éducation nationale, c'est un élève qui ne présentait pas de difficultés particulières. Il s'agit d'un collégien âgé de 14 ans, scolarisé en 3e au collège Françoise Dolto à Nogent. Ses deux parents travaillent, a précisé Elisabeth Borne. Malgré deux exclusions temporaires en début d'année pour avoir perturbé la classe, aucun autre incident n'avait été signalé. Jusqu'à maintenant, le collégien n'avait pas d'antécédents judiciaires. Le garçon était même ambassadeur harcèlement, élève qui, dans un collège ou un lycée, sert de référent dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Ses professeurs, eux, sont sidérés par ce qu'il s'est passé ce matin.
Elisabeth Borne a aussi rappelé les résultats des fouilles aléatoires menées depuis fin mars dans les établissements scolaires, résultat d'une circulaire signée conjointement en mars avec son collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour que les forces de l'ordre puisse contrôler l'intérieur des sacs à dos des élèves, Jeanne.
Mesure décidée après la multiplication des agressions à l'arme blanche dans ou à proximité des établissements scolaires. Depuis la mise en place de ces contrôles aléatoires, 6000 fouilles ont été réalisées en l'espace de 2 mois, 186 couteaux saisis. Il y a eu 32 gardes à vue et 600 conseils de discipline. Mais Elisabeth Borne veut aller au-delà de ces contrôles aléatoires. La ministre de l'Éducation veut aussi agir sur la santé mentale en demandant aux assises de l'harcèlement un meilleur suivi des jeunes.
Jeanne Stémar, merci. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence à la mémoire de Mélanie à l'ouverture de la séance des questions au gouvernement cet après-midi. Mais après l'hommage, l'extrême droite n'a pas tardé à mettre en cause le gouvernement pour son incapacité supposée à empêcher de tels drames. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
C'est Marine Le Pen qui a ouvert les hostilités contre François Bayrou.
Marine Le Pen qui évoque un drame et non un fait divers, un drame lié selon elle à la passivité des différents gouvernements qui se sont succédés.
C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que des enfants deviennent orphelins et des parents sont obligés d'enterrer des enfants victimes de la barbarie.
La chef de file des députés RN s'adresse au Premier ministre François Bayrou. Elle lui demande une réponse politique à ce drame.
Nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Et donc le gouvernement a lui aussi l'intention d'aller dans le sens de l'expérimentation de portiques à l'entrée des établissements scolaires.
La députée Horizon Naïma Moutchou a remis un rapport fin mai à Matignon sur le problème des armes blanches chez les jeunes. Dans sa prise de parole, elle évoque l'ampleur du fléau.
Ce matin, c'est Cécile, assistante d'éducation, qui a perdu la vie. Hier, c'était Elias, Lorraine, Thomas, Sekou, Inès, Enzo, Matisse et tant d'autres encore. Tous tués par des mineurs à l'arme blanche. Nous voyons l'autorité reculer partout et la violence gagner partout.
François Bayrou souhaite reprendre les 50 propositions faites par Naïma Moutchou. Elle recommande le déploiement obligatoire de la vidéosurveillance à l'entrée des établissements scolaires, la pause numérique pour les élèves ou tout simplement l'interdiction des téléphones portables. Et elle préconise d'interdire la vente de certains couteaux. Le Premier ministre va lui confier une mission pour vérifier l'application effective de ces propositions.
Antoine Marette, merci. Autre réaction notable ce soir après le drame de Nogent, celle de Jean-Luc Mélenchon. Le chef insoumis appelle à veiller à la santé mentale des jeunes, en particulier des jeunes garçons qui s'enfoncent dans la violence, selon ses termes. Une autre tragédie en milieu scolaire ce soir dans l'actualité, cette fois en Autriche, à Graz, la deuxième ville du pays. Un homme de 21 ans a ouvert le feu dans un collège-lycée. Le bilan est très lourd. Au moins 9 morts. L'auteur des tirs serait un ancien élève. Il s'est suicidé après la tuerie. On fait le point avec notre correspondante en Autriche, Isorias.
L'Autriche est sous le choc après ce qui est la pire fusillade dans une école de son histoire, celle survenue ce matin dans un établissement scolaire de Graz. Les autorités ont confirmé que 9 personnes, 6 femmes et 3 hommes, étaient décédées, sans préciser combien parmi ces victimes étaient des élèves. 12 autres personnes sont également blessées, dont certaines grièvement. L'auteur présumé, un Autrichien de 21 ans, ancien élève de l'établissement, est lui aussi décédé. Il s'est suicidé dans les toilettes. Il n'était pas connu des services de police, mais avait, selon les autorités, un permis de port d'armes. Son mobile reste à ce stade inconnu et l'enquête se poursuit. Arrivé à Graz cet après-midi, le chancelier autrichien Christian Stocker, le visage grave, a appelé à l'unité du pays.
C'est une tragédie nationale qui nous bouleverse tous profondément. Cet acte nous touche en tant qu'êtres humains, en tant que parents et en tant que société. C'est précisément dans ces moments-là que nous devons être solidaires, comme une communauté qui se soutient, comme une société qui compatit. Même si les conflits font partie de la vie, leur résolution par la violence ne doit jamais faire partie de notre vie.
Et le chancelier a décrété 3 jours de deuil national.
Isorias, depuis Vienne. Los Angeles serait en train de brûler si je n'avais pas envoyé l'armée. C'est Donald Trump qui l'écrit sur son réseau social. Alors que la mégapole californienne entre dans sa 5e journée de tension, avec des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants hostiles à la politique anti-immigration de la Maison-Blanche. Le président américain a déjà envoyé près de 5000 militaires sur place, des membres de la garde nationale, mais aussi des Marines. Et il flirte avec la loi américaine sur l'insurrection, pourtant réservée aux situations extrêmes, Sébastien Paour.
Trump n'a jamais été aussi proche d'invoquer ce texte de 1807 qui autorise le déploiement de troupes pour réprimer des troubles intérieurs et qui fait partie des pouvoirs d'urgence les plus extrêmes dont dispose un président en exercice. Quand il dit que les personnes qui causent des problèmes à Los Angeles sont des agitateurs professionnels et des insurgés, il montre clairement qu'il est à deux doigts d'invoquer cet Insurrection Act parce que pour l'instant, sans cette loi, les quelques 4000 membres de la garde nationale et les plus de 700 Marines mobilisés sur place sont cantonnés à des actions limitées. Leur mission reste légalement la protection des agents et des bâtiments fédéraux. Point final. Le gouverneur de Californie a porté plainte contre l'envoi de la garde nationale sans son accord parce qu'il n'y a pas, dit-il, de situation de rébellion dans son état, en tout cas pas à ce stade. Comme l'écrit le New York Times dans son éditorial aujourd'hui, c'est le 6 janvier 2021 que l'Amérique s'est le plus approchée de la rébellion quand les partisans de Trump ont pris d'assaut le Capitole. Ils n'avaient pas envoyé l'armée à l'époque.
Sébastien Paour, correspondant de France Culture à Washington. Et face à Donald Trump, un homme s'impose effectivement aujourd'hui comme son principal opposant, Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de la Californie. Après l'envoi de 700 Marines à Los Angeles, il n'avait pas hésité à dénoncer, je cite, « le fantasme fou d'un président dictatorial ». Le président américain qui en a fait sa bête noire au point d'évoquer la possibilité de l'arrêter. Une provocation de Trump qui renforce encore la nouvelle stature de Gavin Newsom, Nathanaël Charbonnier.
Depuis que la crise a débuté à Los Angeles, on le voit partout avec son look impeccable et son sourire hollywoodien. Il faut dire que Gavin Newsom est le gouverneur de l'État de Californie. C'est un démocrate, mais qui sait aussi séduire les républicains, notamment lorsqu'il s'en prend au campement de sans-abri nombreux en Californie. Mais pour l'heure, ce qui charme, c'est sa faculté à répondre au président américain, notamment lorsqu'il demande à Trump de grandir un peu et d'arrêter de faire n'importe quoi.
J'ai dit au président, finissons-en, arrêtez-moi, passez à autre chose. Si vous avez besoin d'un scalp, faites-le avec moi. Et arrêtez de vous en prendre à ces jeunes. Les gens ont peur de marcher dans la rue. Il y a des incidents, je n'y croyais pas, mais j'ai vu des vidéos. Ils font des contrôles d'identité des gens bien, qui travaillent dur, des gens honnêtes. Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des voyous.
Le gouverneur Gavin Newsom qui trouve, grâce au président Trump, l'occasion de se faire connaître dans tous les États-Unis. Car après 6 ans à la tête de l'État de Californie, où il a mené une politique de gauche en défendant par exemple le droit à l'avortement, il était à la recherche justement du tremplin qui lui permettrait de rayonner au-delà de ses frontières.
C'est une voix singulière en Israël face à Benjamin Netanyahou. L'ancien Premier ministre Ehud Olmert fait partie de ceux qui critiquent ouvertement la guerre que mène son successeur à Gaza. Une guerre qui était légitime selon lui après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. Elle ne l'est plus depuis mars 2025 quand Netanyahou a ordonné la reprise des opérations militaires à Gaza. Ehud Olmert est à Paris aujourd'hui à l'invitation de la Fondation Jean Jaurès pour défendre une solution à deux États, Israël et l'État palestinien. À ses côtés, le Palestinien Nasser El-Kidoua, neveu de Yasser Arafat et ex-ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne. Les deux hommes proposent une vision commune pour l'avenir de leurs deux peuples. Claude Guibal les a rencontrés.
Tous les opposés, mais désormais c'est ensemble qu'ils avancent. Avec ce plan de paix qu'ils ont bâti il y a presque un an, une solution à deux États avec des échanges de territoires et Jérusalem sous administration internationale. Une vision commune, seule possibilité selon eux pour une paix qui aille au-delà d'un éventuel cessez-le-feu. Et lorsque Ehud Olmert s'adresse à Nasser El-Kidoua, c'est désormais en partenaire.
Regardez-le, c'est un politicien expérimenté. Et moi aussi j'ai un peu d'expérience. On n'est pas naïf. On connaît toutes les difficultés, on sait combien c'est complexe, on sait combien c'est impopulaire parmi certains cercles dans nos sociétés. Mais aussi, on sait qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'une solution à deux États.
Ce qui les rassemble, c'est surtout la certitude que leurs deux peuples sont prisonniers de dirigeants qui n'ont aucun intérêt à sortir de la situation actuelle. Pour Nasser Al-Kidoua, il faut offrir aux Palestiniens une alternative crédible, une autre proposition que le Hamas ou Mahmoud Abbas, auquel ils s'opposent depuis longtemps, incarnation d'une autorité palestinienne défaillante.
Je sais que c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Je ne pense pas que c'est un type que vous puissiez croire sur parole ou passer un accord avec lui sur quoi que ce soit qu'il propose.
Pour Ehud Olmert, même constat pour Benjamin Netanyahou et ses alliés ultranationalistes.
Les jours de Netanyahou sont comptés et d'ici peu il y aura des élections anticipées et je fais tout pour aider à ce qu'il y ait une alternative responsable pour avancer dans la direction qui nous rassemble ici.
Une alternative qui, selon eux, ne peut passer que par un projet commun et admis par les deux États, sans quoi aucun cessez-le-feu ne mettra jamais fin à la guerre.
C'est un sujet majeur de la conférence de l'ONU sur la protection des océans, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il s'agit en tout cas d'une recommandation des scientifiques aux dirigeants politiques présents à Nice. Enjeu prioritaire également pour Emmanuel Macron. Cette pêche illégale représenterait environ 15% des captures dans le monde, soit quelques 26 millions de tonnes de poissons. Une pratique qui détruit les écosystèmes, alimente la corruption et menace les économies locales. On retrouve à Nice Catherine Pétillon, bonsoir.
Bonsoir.
Catherine, la France n'échappe pas au phénomène. En Guyane française, la pression de la pêche illicite étrangère a doublé en 12 ans selon l'Ifremer et l'ONG WWF.
Oui, les bateaux viennent des pays voisins, Brésil, Suriname, et Todd Rommel, qui est pêcheur en Guyane depuis plus de 40 ans, les croise de plus en plus souvent quand il part en mer.
On les voit tous les jours. Parce que nous, on a préservé notre zone. La Guyane est petite, la population est petite. Il y a peut-être 15, 20, 25 bateaux qui pêchent. On pêche pour la population locale. Donc ça va. La ressource, elle est bonne. Donc les voisins qui ont surpêché, qui ont des industries énormes, qui exportent. Maintenant, c'est les voisins qui viennent. Mais ce sont des pêcheurs illégaux. Ils ne respectent aucune condition. Ils vont pêcher même dans les réserves.
Sans compter les méthodes utilisées, de grands filets qui provoquent de nombreuses captures accidentelles de tortues et de dauphins. La population de poissons, elle, s'effondre et c'est autant de ressources en moins pour les pêcheurs légaux et locaux comme Todd. Lui met beaucoup plus de temps à pêcher la même quantité de poissons.
Avant, on pouvait faire 3-4 jours et remplir avec la cale pleine. Et aujourd'hui, il faut faire 10, 12, 13 jours. C'est ça la différence. Moi, je nourris ma famille avec mon travail. Chaque marin fait vivre 2-3 personnes à terre. Donc imaginez, lorsque les populations de poissons diminuent, on a des centaines de familles qui ne peuvent pas vivre.
C'est aussi une question alimentaire. En Guyane, le poisson est la première protéine animale consommée. Mais pour les pêcheurs illégaux, il y a toujours plus de bénéfices que de risques à venir dans ces eaux exploiter des espèces comme la coupa rouge, vendue très cher en Asie. Alors pour Audrey Chevalier, qui est chargée de programme Océan pour l'ONG WWF en Guyane, il faut davantage de mesures dissuasives.
Ce serait de la présence en mer, parce qu'actuellement on ne voit pas les bateaux de contrôle sur les théâtres d'intervention, c'est-à-dire sur les frontières. Ce serait couler les bateaux illégaux, ce qui est quelque chose qui a été annoncé. On va voir si ça va être mis en place, à quelle échéance également. On veut voir une diminution du nombre de navires de pêche illégale. On veut les voir disparaître.
Outre cette destruction des navires illégaux repérés qu'il veut faciliter, le gouvernement français dit vouloir recourir davantage à la surveillance par drone.
Catherine Pétillon en direct du sommet des océans de Nice avec Jérémy Thuil pour les moyens techniques. Le dossier de ce journal nous emmène dans un lieu extraordinaire, unique en France, avec une mosquée, une pagode japonaise ou encore une salle renaissance dans ses murs. La maison de Pierre Loti à Rochefort, en Charente-Maritime, est à nouveau accessible après un long chantier de restauration. Fermée au public en 2012, elle vient de rouvrir ses portes aujourd'hui, date symbolique, 102 ans, jour pour jour, après la mort de l'écrivain voyageur à qui l'on doit notamment Pêcheur d'Islande. Classée monument historique, labellisée Musée de France et Maison des Illustres, la maison de Pierre Loti figure dans la liste des premiers bénéficiaires du loto du patrimoine. Benoît Grossin, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
C'est un chantier colossal de près de 15 millions d'euros qui s'achève.
Tout a été restauré de fond en comble dans cette petite maison charentaise que l'écrivain et officier de marine a transformée à la fin du 19e siècle en décor de théâtre pour ses souvenirs, des milliers d'objets hétéroclites glanés aux quatre coins du monde.
C'est une maison monde.
Claude Stéphanie, le conservateur de la maison de Pierre Loti.
Pierre Loti y a transposé tout ce qu'il a pu voir dans ses voyages, en fait. C'est-à-dire qu'on y trouve une chambre arabe, un salon turc, une mosquée, une pagode japonaise et une salle chinoise. Ça, ce sont les grands décors exotiques, plus aussi des décors historicistes, une salle gothique et une salle renaissance. Dans deux maisons, en fait. Sa maison natale, qui est la maison familiale, et la maison voisine qu'il a achetée en 1895. Mais alors, ce n'est pas une maison d'architecte, c'est une maison de rêveur. C'est complètement compacté. Et donc là, on a une espèce de labyrinthe. Et on a ce sentiment que tout est un peu empilé de façon aléatoire.
Et cette maison-monde, construite au fil de l'eau sur plusieurs décennies, Benoît, n'a pas vraiment été façonnée dans les règles de l'art.
Pour bâtir son univers onirique, Pierre Loti est allé jusqu'à supprimer des planchers et murs porteurs, d'où un risque d'effondrement qui a contribué à la fermeture de sa maison au public en 2012. Et c'est après une mise à l'abri de l'ensemble des collections dans une maison totalement vide que l'architecte du patrimoine Elsa Rico est d'abord intervenue pour des travaux de consolidation pour corriger les importantes défaillances structurelles.
C'est une maison extrêmement fragile, déjà parce que Pierre Loti l'a lui-même amputée de certaines parties porteuses, mais aussi parce que la maison repose sur un sol marécageux, donc il a fallu dans un premier temps créer ses fondations. On a réalisé un scanner en trois dimensions, un clone numérique de ce monument historique, qui nous a énormément aidé pour consolider les planchers qui n'étaient pas plus en capacité de porter du public. Et donc pour cela, nous avons ajouté des structures en métal les plus fines possibles pour ne pas impacter les décors. Et donc pour cette raison, il a fallu déposer des sols anciens, des parquets, des dallages en marbre pour pouvoir accéder aux entrailles des planchers. Et c'est après cette opération que nous avons pu reposer tous les sols historiques de la maison.
Et ce vaste chantier de restauration, Benoît, a réservé aussi de belles surprises.
À commencer par la redécouverte d'une salle mythique, la salle chinoise, dans ce qui était devenu une cour. Et cela à la faveur d'un incident, raconte l'architecte Elsa Rico.
La plus belle découverte que nous avons faite sur ce chantier, elle est arrivée dès l'hiver 2020 et à l'occasion d'une fuite. Et les dégâts des eaux ont fait apparaître derrière ces enduits tous les vestiges du plafond et des décors de cette salle chinoise qui avait été démantelée à la mort de Pierre Loti, que tout le monde pensait aux oubliettes. Et de fil en aiguille, on a commencé à mener une véritable enquête pour recomposer le puzzle, de retrouver les traces des colonnes, les couleurs d'origine, le rouge cinabre typiquement chinois qu'utilisait Pierre Loti dans sa maison. Et nous avons pu de cette manière, avec des outils numériques et des images de synthèse, reconstituer cette salle chinoise disparue.
Et après 5 mois de réinstallation minutieuse des décors et des collections, c'est la version de la maison datant de la mort en 1923 de Pierre Loti, grâce à des photographies d'époque en l'absence d'archives, cette fameuse maison-monde qui est au plus juste restituée aujourd'hui.
Merci Benoît Grossin. Notez que les visites obligatoirement avec un guide de la maison de Pierre Loti à Rochefort ne peuvent se faire qu'en petits groupes de 10 personnes maximum. Un mot du temps demain, soleil et chaleur au programme sur tout le pays après des nuages bas de la Manche aux frontières du Nord. Le ciel devient orageux en fin de journée des Pyrénées à la Bretagne. Demain matin, il fera entre 8 et 19 degrés du nord au sud. Les températures maximales grimpent de 22 à 37 degrés. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Anthony Thomasson.